Et justement, le hasard et la chance sont-ils une simple affaire de croyance ou la science a-t-elle des choses à nous dire sur ce sujet qui fascine les hommes depuis la nuit des temps? Peut-on trouver des raisonnements ou des règles mathématiques pouvant expliquer ces phénomènes qui nous surprennent toujours lorsqu'ils se manifestent? Nous verrons aussi s'il est possible de maîtriser la chance et le hasard. C'est le dossier donc de La Tête au Carré dans un instant avec vos questions, vos messages à nos invités sur notre adresse latêteaucarré@radiofrance.com, également sur le compte Twitter et Facebook de l'émission. Des polluants chimiques retrouvés pour la première fois au plus profond des océans, c'est aujourd'hui à la une de la science. Bonjour Catherine de Coppet.
Bonjour Mathieu. Ces polluants ont été détectés dans le corps de crustacés présents à plus de 7000 mètres de profondeur. Une découverte inédite, comme on va le voir dans un instant.
Et c'est Stéphanie Texier qui est aux commandes de cette Tête au Carré, préparée aujourd'hui par Dylan Beiner.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Chance et hasard dans notre dossier, donc dans un instant. Bienvenue à mes invités, le mathématicien Ivar Ekeland et le journaliste Éric Thierry. Bonjour.
Bonjour
à tous les deux. Ivar Ekeland, est-ce qu'il y a des choses vraiment rationnelles à dire sur le hasard?
Mais oui. Il y a des, vous savez, quand on dit que, quand on lance le dé, le 1 a une chance sur 6 de sortir, a une probabilité 1 sur 6 de sortir, ouais. C'est parfaitement rationnel et c'est quelque chose que tout le monde comprend.
Éric Thierry, est-ce qu'il y a des clés à connaître justement pour peut-être favoriser la chance, puisque c'est le sujet qui vous intéresse tout particulièrement?
Oui, il y a des clés à connaître pour favoriser sa chance, ouais. Et il veut dire aussi sa malchance.
Bon, alors vous allez nous donner ces clés, vous nous promettez, dans quelques minutes, on va en parler avec peut-être les témoignages des auditeurs, en tout cas les questions, sur le site de l'émission.
La science de l'environnement, en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et à la une aujourd'hui, donc, des polluants chimiques au fin fond des océans, à la une de la science.
Le fond de la mer est pollué, c'est désormais prouvé. Jusqu'à 4500 mètres de profondeur, toutes sortes de détritus jonchent le sol. Des plastiques, surtout à 41%, du vieux matériel de pêche abandonné pour un tiers des déchets, et du bois, des vêtements, du verre, du métal, tous nos détritus.
Et c'est la première fois que l'on découvre des polluants à ces profondeurs, hein, Catherine de Coppet.
Oui, alors ici, il s'agit de polluants chimiques. Une équipe de chercheurs britanniques a annoncé lors d'un colloque à Shanghai au début du mois avoir retrouvé des traces de polluants donc d'origine humaine dans les fosses des Mariannes et des Kermadec, respectivement situées dans l'océan Indien et Pacifique.
Et pour en parler, nous sommes en ligne avec vous, Jean-François Guiglione. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS en écotoxicologie microbienne. C'est à l'Observatoire océanologique de Bagnoul-sur-Mer. Et puis avec nous, comme chaque lundi, Hervé Kempf pour le site reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Découverte inédite, Hervé.
Oui, tout à fait. On cherche les endroits immaculés sur la planète maintenant. Mmh. On rêvait de l'Himalaya et de l'Everest, ça n'est plus le cas. On se disait on va aller au Groenland, ça n'est plus le cas. Qu'est-ce qu'il nous restait? Les grandes fosses océaniques à plus de 10 km de profondeur, eh bien hélas, ça n'est plus le cas, comme on l'a vu. Les scientifiques, et ça va être publié prochainement dans une grande revue scientifique, ont trouvé à l'ouest du Pacifique, dans la fosse Marianne à 1500 km de Tokyo et dans la fosse Kermadec à 1000 km de la Nouvelle-Zélande, eh bien des crustacés, des amphipodes, c'est un ordre de petits crustacés qui ont des formes variables mais qui sont proches des crevettes, on en compte 9500 espèces. Les scientifiques ont étudié l'Hirondellea gigas et qu'ont-ils retrouvé? Eh bien des fortes concentrations de PCB, les polychlorobiphényle, merci.
Bravo.
C'était un isolant électrique utilisé par centaines de milliers de tonnes au XXe siècle. Mmh. On en trouve encore. Et puis du PBDE, c'est un agent ignifuge bromé qui lui aussi est en cours d'interdiction. Mais les effets rémanents et les effets durables de ces produits chimiques fait qu'on les retrouve maintenant jusqu'au fond des mers.
Catherine de Coppet.
Oui, Jean-François Guiglione, on va essayer de rentrer justement dans le détail de ce qu'a présenté Hervé à l'instant. Les pollutions ont été retrouvées chez des crustacés et rien que ça, c'est assez original, cette découverte.
Oui, c'est très intéressant en fait à plus d'un titre. Effectivement, on pourrait penser que le monde des abysses est préservé des pollutions puisqu'il est assez éloigné des zones de rejet des polluants qui se situent en général près des côtes. Ici, comme le disait l'interlocuteur tout à l'heure, c'est dans les zones les plus profondes du monde, donc où il est déjà étonnant de voir que la vie existe hein, dans ces conditions extrêmes. Mm-hmm. Il faut resituer les conditions. En fait, on n'a pas de lumière, la température est proche de 0 degré, la pression est énorme. En fait, on est à plus de 1000 fois la pression atmosphérique, et puis surtout, il y a très peu de nourriture. Et il semble que la vie dans les abysses, qui est un écosystème très fragile, soit menacée par les polluants très dangereux.
Ils sont faciles à repérer, ces crustacés ?
Alors, il faut imaginer en fait que les expéditions qu'on fait dans le fond des océans sont très complexes. Il se trouve que ces crustacés, c'est des animaux qu'on retrouve assez fréquemment dans les zones abyssales, et notamment dans la fosse des Mariannes, c'est des individus qui sont bien retrouvés. Ouais.
Alors Jean-François Guillon, qu'est-ce qu'on peut dire de ces polluants qui ont été retrouvés chez ces crustacés, donc des polluants fabriqués par l'homme, PCB et PBDE? Est-ce que vous pouvez nous les présenter, ces deux substances?
C'est des polluants en fait qui ont des propriétés assez remarquables au départ. Hein. Le PCB notamment, c'est très stable à la chaleur, donc ça se décompose qu'à des températures supérieures à 1000 degrés. Donc c'est utilisé chez les isolants pour les isolants électriques ininflammables. Donc ça permet en fait d'éviter l'inflammation des transformateurs électriques, des condensateurs, etc. Et le PBDE, donc que citait également tout à l'heure l'autre agriculteur, en fait, pardon, excusez-moi. Donc c'est utilisé également pour lutter contre le feu, pour inifuger les matières plastiques et les textiles. Et ça, on en a énormément dans nos maisons, au niveau des tapis, des rideaux, des meubles, des matelas, des mousses de fauteuils, etc. Donc c'est très présent dans nos habitations. Et il se trouve que ces polluants, on s'est rendu compte qu'ils avaient également des effets toxiques. Notamment, ils s'accumulent dans la chaîne alimentaire, et c'est pour ça qu'on les retrouve chez ces crustacés dans le fond des océans. On appelle ça la bioaccumulation, c'est-à-dire qu'ils sont des produits qui sont au départ hydrophobes, donc ils sont faiblement solubles dans l'eau, ils sont solubles dans les graisses, et on les retrouve notamment dans les graisses animales, donc dans le poisson, la viande, le lait, dont la consommation est soumise à des normes très strictes, notamment au niveau de la concentration de ces polluants. Il faut savoir que le temps de demi-vie de ces polluants, c'est de 100 jours jusqu'à 3000 ans, selon les molécules.
Alors ce qu'on n'a pas rappelé, c'est que ces deux polluants sont interdits, l'un depuis 87, l'autre depuis 2004 en France, mais aussi dans d'autres pays, et qui sont responsables chez l'homme de cancers et de perturbations endocriniennes importantes.
Oui, effectivement, en fait, ils sont toxiques, bon, pas seulement pour l'homme, hein, ça conduit à des malformations également chez les animaux, mais effectivement, chez l'homme, ça conduit au cancer du foie, du pancréas, des voies biliaires. Et puis, c'est un problème au niveau de la reprotoxicité, c'est-à-dire que c'est des formes chimiques qui sont très proches de la thyroxine, donc une hormone thyroïdienne. Donc, c'est ce qu'on appelle un perturbateur endocrinien, ça entraîne des modifications de la reproduction et un dérèglement hormonal.
Hervé Kempf.
Est-ce que le fait qu'on ait trouvé ces concentrations chez ces espèces en particulier, est-ce que ce sont vraiment des témoins de l'ensemble de la chaîne écologique de cet écosystème très particulier, d'une part, et est-ce qu'on peut imaginer, puisque c'est très au fond de l'océan, est-ce que ça pourrait avoir des effets sur les couches supérieures de l'océan?
Alors, c'est évident, en fait. Enfin, pourquoi on retrouve ces molécules dans les abysses? C'est simplement parce que c'est dû à la fois à la caractéristique des polluants que je viens de citer, en fait, qui persistent beaucoup et qui s'accumulent dans les graisses, mais c'est également aux caractéristiques du mode de nutrition des crustacés, puisqu'on sait, en fait, que ces crustacés ont un mode de nutrition détritivore ou charognard, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent des détritus et d'animaux morts. Donc, dans les abysses, il y a très peu de nourriture, donc la survie de ces animaux dépend beaucoup des apports des zones moins profondes qui vivent au-dessus d'eux. Et c'est certainement par la consommation des animaux morts qui vivent plus près de la surface et qui ont déjà concentré ces polluants dans leurs tissus que ces animaux des abysses ont certainement été contaminés, et ils vont eux-mêmes contaminer leurs prédateurs qui sont les poissons.
Jean-François Guiglione, ces perturbateurs, ces polluants, on les a retrouvés en quantité importante ou pas?
Visiblement, d'après les données qu'on a pour l'instant, enfin, il n'y a pas vraiment de données puisque l'article n'a pas été encore publié, mais il cite en fait que les concentrations dans les crustacés qui ont été retrouvés sont à peu près identiques de ce qui peut se retrouver dans des estuaires, donc près de la surface, ou là où on trouve les concentrations les plus importantes de PCB accumulées dans les animaux. Donc c'est assez
troublant,
perturbant, oui. Voilà, troublant dans le sens où on a des concentrations qui sont énormes, hein, par rapport à ce qu'on imaginait dans les abysses.
Oui. Jean-François Guillon, est-ce qu'on peut mettre en cause la géographie par rapport à ce qu'on a retrouvé? C'est-à-dire que là, on se trouve dans l'océan Indien, l'océan Pacifique, pas très loin des zones asiatiques où il y a beaucoup d'industries. Est-ce qu'il y a un rapport entre la géographie et ces concentrations de polluants?
Alors ça, c'est une question très intéressante. En fait, on se pose toujours la question de savoir est-ce que la proximité va faire quelque chose sur les animaux qui vivent près des zones de rejet. En fait, c'est vraiment la leçon à tirer de ce type d'article, c'est que tout est connecté dans les océans, donc du haut de l'Himalaya, de l'Himalaya comme vous citiez également, au bas des océans, au plus proche de la croûte terrestre, on retrouve ce type de polluants persistants et on voit en fait que c'est vraiment connecté dans tous les océans.
Sachant que le PCB est également interdit en Chine, hein, donc n'incriminons pas trop vite les pays pollueurs, sachant qu'on a pollué énormément
avant eux.
Au début du XXe siècle.
Hervé Kempf, une dernière question.
Cette recherche s'inscrit dans un mouvement où il y a une volonté d'exploration de plus en plus grande des fonds marins, et notamment par exemple pour le fait que certains organismes naturels pourraient donner naissance à des médicaments. Mais si ces ressources naturelles sont polluées d'entrée de jeu, est-ce que ça ne pose pas un vrai problème ?
Évidemment, c'est un problème. En fait, il y a eu des travaux récents justement sur cette espèce de crustacé qui ont été publiés en 2012 et qui ont montré leur capacité à digérer un large spectre de molécules, puisqu'elles sont vraiment dépendantes des molécules qui vont tomber sur elles. Donc, elles sont capables notamment de digérer la cellulose du bois, qui est très difficile à digérer. Les ruminants et les termites qui vivent sur la Terre utilisent des bactéries spécialisées dans leur estomac pour digérer la cellulose du bois. Ici, les chercheurs ont découvert une enzyme complètement nouvelle chez cette espèce de crustacé qui dégrade la cellulose et qui la transforme en sucre simple, donc en glucose, qui peut être utilisé pour faire de l'éthanol. Donc on pourrait utiliser le bois à la place du maïs et de la canne à sucre pour effectivement faire de l'éthanol. Donc en polluant les zones profondes, on peut perturber la survie d'organismes qui ont des capacités métaboliques extraordinaires et on peut se priver de la découverte de nouvelles molécules ou de nouvelles enzymes qui peuvent être utiles pour l'homme.
Ouais, Jean-François Guiglione, il y a un message d'un auditeur, Thierry, qui nous écrit en ce moment, qui vous écoute et qui nous dit « Pourquoi est-ce qu'on est surpris de cette pollution des fosses marines alors que l'homme a largement pollué l'espace avec ses satellites et autres voyages interstellaires ?»
Oui, effectivement, c'est surprenant dans le sens où on n'était jamais allé voir pour l'instant. Oui. Je pense que maintenant, il faut tirer les leçons pour les pollutions passées, parce que c'est des pollutions passées, en fait. C'est des produits qui sont plus utilisés, mais qui existent encore aujourd'hui. Donc, il faut être particulièrement attentif aujourd'hui au traitement des déchets, de ces déchets-là en particulier. Et la France, notamment, a des stocks de PCB non détruits qui sont encore importants. Et puis il faut arriver à un système législatif qui se donne les moyens et qui impose ce qu'on appelle l'éco-conception durable, c'est-à-dire penser au risque environnemental des produits commercialisés, au recyclage des produits en fin de vie, dès la conception du produit, avant sa commercialisation. Et ça, c'est très important.
Donc la solution viendra de la terre et pas de la mer, hein, si on veut agir pour éliminer ces polluants. Merci beaucoup Jean-François Guiglione pour votre éclairage donc sur cette étude qui n'est pas encore publiée, hein, Hervé, mais qui va arriver...
On ne sait pas, c'était un article dans
les semaines qui viennent. Merci beaucoup. On retrouve bien sûr cette information sur reporter.net. À demain, Catherine de Coppé.
À demain, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les restes d'un mammouth de plus de 14 000 ans retrouvés au Mexique. Ça se passe justement dans la région de Mexico. Une équipe d'archéologues a mis au jour un squelette de mammouth aux trois quarts complet, découvert à 2 mètres de profondeur à l'occasion de travaux urbains. Squelette retrouvé en plusieurs parties, ce qui démontre l'utilisation de la bête par l'homme à cette époque pour sa peau ou sa viande. Selon les chercheurs, le mammouth découvert devait mesurer 3,50 mètres de haut pour 5 mètres de long et peser plus de 5 tonnes. D'autres mammouths ont déjà été retrouvés dans la région, mais c'est le premier à être étudié. Jusqu'ici, le signalement des ossements n'était pas systématique par crainte de retarder les travaux ayant permis les découvertes. On reste dans l'ancestral avec cette étude sur le camouflage des insectes à l'époque là du Crétacé. Une équipe de chercheurs internationales vient de démontrer qu'il y a plus de 100 millions d'années, les insectes présents sur Terre avaient déjà développé des techniques de camouflage pour échapper à leurs prédateurs. Concrètement, les scientifiques ont étudié 35 fossiles d'insectes préservés dans des morceaux d'ambre collectés en France, au Liban et en Birmanie. Ils ont découvert aussi que certaines larves étaient capables de se couvrir avec les restes de leur proie pour changer d'apparence. D'autres, comme cette espèce ancêtre des fourmilions, pouvaient utiliser des morceaux microscopiques de fougères pour se protéger. Et puis la découverte d'une nouvelle particule élémentaire ne serait plus d'actualité. C'est pourtant ce que promettaient les premiers résultats des expériences ATLAS et CMS par les physiciens du LHC, le grand accélérateur de particules du CERN. Eh bien non, il faudra donc patienter, puisque pour l'instant, selon les données, eh bien c'est une erreur qui avait donné de l'enthousiasme auprès de la communauté scientifique. Peut-être donc dans les mois prochains, d'autres surprises à venir. Mais pour l'instant, donc, repos. Le hasard et la chance, c'est le dossier dans un instant.
Watch it all roll in. Just watch it all roll in. See what remains.
unfolding, never the same.
Qu'est-ce que le hasard ? C'est quelque chose qu'on peut pas prévoir.
Pour moi, ce serait ce qui se produit quand on l'a pas vraiment voulu.
J'ai une phrase sur le hasard, c'est Einstein qui l'avait dit, j'aimais bien. C'est le hasard, c'est quand Dieu joue au dé.
Ça peut être un bon hasard, un mauvais hasard, mais...
Ouais, c'est une probabilité qui arrive ou pas, enfin voilà, pour moi.
Peut-on prévoir le hasard ?
Eh non, parce que sinon le hasard ne serait plus le hasard.
Ah, ça, on va voir ça avec nos invités qui sont avec nous donc cet après-midi dans le dossier de la tête au carré. Ivar Ekeland, vous êtes mathématicien, économiste et co-auteur avec Étienne Lecroate, qui est également illustrateur donc de cette bande dessinée hein, sur le hasard aux éditions Le Lombard dans la collection La Petite BDTech des Savoirs. Et vos travaux scientifiques portent sur l'optimisation, le chaos, on va en parler bien sûr avec vous, la théorie des jeux et la rationalité. Et puis Éric Thierry, vous êtes journaliste indépendant, vous travaillez donc sur l'écriture de documentaires et vous êtes l'auteur de ce petit livre de la chance aux éditions Le Pommier, paru en 2016. Ivar Ekeland, de chance et hasard, on parle de la même chose au fond, ou il faut un petit peu nuancer les propos?
Ce n'est pas bien éloigné. Hein. La chance, c'est le hasard qui vous est favorable, et la malchance, c'est le hasard qui ne vous est pas favorable. Hein. C'est-à-dire, quand on parle de hasard, il y a toujours un être humain qui juge les choses. Hein. Ça vous avantage, ça ne vous avantage pas. Dans un monde où il n'y aurait pas d'être humain, je crois qu'il n'y aurait pas de hasard. Personne ne se soucierait de la question.
Éric Thierry, donc vous, c'est la face optimiste finalement du hasard que vous avez souhaité aborder dans ce petit livre de la chance.
Tout à fait, oui.
Ouais. Il y a beaucoup d'histoires, hein, sans arrêt, dans les journaux d'ailleurs, vous en faites l'écho.
On a tous un avis sur le hasard. Ça fait partie de ces choses comme l'amour, l'humour... Ce sont des concepts qu'on manipule au quotidien sans vraiment y penser. Le hasard en fait partie, c'est ce qui m'intéressait. Ouais. Le hasard, la chance, tout le monde a un avis là-dessus.
Oui. À cela dit, vous vous intéressez aux malchanceux quand même. Oui. Hein. Vous avez le français que vous qualifiez comme le plus malchanceux du pays, auquel il est arrivé un nombre d'opérations absolument incroyables. Le pauvre, il a passé plus de 2000 jours à l'hôpital, c'est ça?
Oui. En fait, c'est quelqu'un à qui toutes les poisses peuvent arriver. Ouais. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est... À sa place, comment est-ce que je réagirais? Ouais. Et lui, il a trouvé la solution. C'est qu'il s'en moque. Hein. Ouais. Tout lui glisse dessus et c'est un incroyable résilient.
Ouais. Donc c'est intéressant de travailler sur l'optimisme aussi quand on traite ces notions de hasard, Ivar Ekeland.
Oui, oui. C'est intéressant de travailler sur l'optimisme. Si vous voulez, il se passe toujours des tas de choses. Il y a des portes qui s'ouvrent, des portes qui se ferment, etc. Et puis la chance, bien souvent, on la saisit. La chance, c'est pas quelque chose qui tombe. Ça peut arriver, on gagne à la loterie. Enfin, on gagne pas à la loterie si on n'achète pas de billets. Il y a déjà ça, ouais. Si vous voulez.
Enfin, sauf que la chance de l'emporter est très faible.
Elle est très faible.
Mais enfin, il faut la provoquer.
Bien sûr, si vous n'achetez pas de billets, ouais. Vous ne gagnerez pas à la loterie. Et bien souvent, dans la vie, dans la vie, ça se passe. Il y a des tas de choses. Vous voyez, il y a le Brexit, il y a des choses comme ceci. Il y a des tas de choses que personne n'avait prévues. Et à un moment donné, il y aura une opportunité. Ce sera une chance pour quelqu'un. La porte sera ouverte, elle va être ouverte 30 secondes et après elle sera refermée. Il faut être prêt pour saisir cette chance. La chance est aussi quelque chose qu'on saisit.
Ouais. Alors c'est un peu ce que vous racontez d'ailleurs avec la rencontre avec votre dessinateur Étienne Lecroix, parce qu'il y a un petit dessin justement qui montre comment on aboutit un jour à une rencontre avec quelqu'un qu'on n'était pas prédestiné justement à croiser un jour.
Oui, c'est-à-dire là, on m'avait demandé, les éditions du Lombard, ils ont lancé cette Bibliothèque des Savoirs, ils voulaient quelque chose sur le hasard, ils voulaient un scientifique. Ça a été moi parce que le directeur de la collection m'avait consulté sur une vie d'Einstein, et puis il rencontre Étienne Lecroix, qui est très intéressé par les maths, et qui leur dit, si un jour vous avez à faire une BD sur les sciences, vous songez à moi.
Voilà.
Et puis ça a très, très bien marché, il y a ça aussi.
Donc il n'y a pas vraiment de hasard non plus, ce sont effectivement des éléments qui s'imbriquent et qui font qu'à un moment, voilà, on arrive au bout de la route.
Oui, il y a une sorte de ramification, c'est un peu, un dessin au début, c'est l'arbre. Il y a tout l'arbre des possibles, il y a une multitude de choses. On est à un tout petit bout d'une brindille. Ça aurait pu être autrement.
Ouais.
Mais de nouveau, ça se construit. Ça se construit. C'est parce qu'il était intéressé par les maths, c'est parce que j'étais intéressé par la BD qu'on s'est rencontrés. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais ça a été eux.
Est-ce que la malchance, ça se construit également, Éric Thierry? Quand on lit la première anecdote de votre livre, on se demande, mais c'est vrai cette histoire de 5 naufrages à la suite pour ces mêmes passagers, au fond. Ça se passait au 19e, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est un bateau qui fait naufrage une première fois. Il part d'Australie. Et il fait une première fois naufrage, il est sauvé, il fait naufrage une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. Et à chaque fois, les équipages successifs se retrouvent avec le groupe et tout le monde est sauvé, pas une seule vie n'est perdue.
Ouais.
Et ils sont finalement récupérés par un paquebot qui vient d'Angleterre et qui va en Australie. Et à bord de ce paquebot, il y a une vieille dame qui est malade, qui va peut-être mourir, qui est partie d'Angleterre pour aller retrouver son fils qu'elle n'avait pas vu depuis 10 ans. Et le médecin de bord se dit, bon, allez à Jacques Test, elle va mourir, on va essayer d'atténuer sa peine. Et il demande à l'un des marins de se faire passer pour son fils.
Voilà.
Il lui donne le nom de sa passagère et il se trouve que c'était la mère du marin.
Oui, c'était vraiment son fils.
Et c'était vraiment son fils. Donc, 5 malchances pour, au final, avoir une chance extraordinaire.
Elle est incroyable, cette histoire.
Oui, elle est incroyable.
On se demande si elle est vraie, d'ailleurs.
Voilà, maintenant, je vais me faire l'avocat du diable.
Oui.
Quand on fait les choses rationnelles, on se dit, quoi, depuis les origines des temps, combien il y a eu de naufrages Bon, il y a eu beaucoup de naufrages. Alors, ça fait beaucoup de situations différentes. C'est comme si on lance les dés des milliers et des milliers de fois. Alors qu'on nage qu'on fasse naufrage une fois dans un voyage, ça doit se passer sur le long assez souvent. Qu'on fasse 2 fois dans le même voyage, bon, c'est moins fréquent, mais ça doit se passer. Et ainsi de suite. Qu'on passe 5 fois, peut-être dire qu'en 10 000 ans, il va arriver un jour à un équipage de faire naufrage 5 fois, et celui-là, alors, il se dira, j'ai vraiment eu de la poisse. En plus, ce sera vrai.
Ouais, mais c'est quand même étonnant.
Ah, mais c'est étonnant que ça vous arrive à vous.
Ouais.
C'est-à-dire que sur l'ensemble de l'histoire, ce n'est pas étonnant que ça arrive, mais si ça tombe sur vous, alors là, vous vous dites, vraiment, j'ai de la poisse.
On est dans les probabilités, finalement.
On est dans les probabilités. Ce qu'il y a d'intéressant dans les probabilités, ce sont les toutes petites probabilités. Les toutes petites probabilités. Un jour, ça va... Bon, quelque chose qui a une probabilité de 99%, tout le monde va en souffrir. Bon, mais très bien. Quelque chose qui a une probabilité de 1%, ça va tomber sur quelqu'un. Celui sur qui ça tombe se dira... Pourquoi moi ?
La probabilité qu'une crotte de pigeon arrive sur l'épaule d'un président de la République, ça aussi, elle est faible, cette probabilité. Et pourtant, ça s'est passé, et même en France, il n'y a pas si longtemps, écoutez l'extrait du Petit Journal, c'était en janvier 2015.
Il y a Hollande qui passe, et à côté, il y a Ségolène, qui est une survivante, paf, un pigeon lui chie sur l'épaule.
Et en effet, voici ici la fameuse chiure de pigeon, 3, 2, 1.
Du boulevard
Alors, quelle est la probabilité pour qu'un oiseau, non seulement passe pile au-dessus d'un président à un moment clé, mais en plus, y aille et qu'il l'atteigne?
Bonjour, je m'appelle Cyril Lucas et je suis maître de conférence en probabilité à l'université Paris Diderot.
Oui, on est allé jusqu'au bout. Et c'est très sérieux, on a compté, voici la probabilité pour qu'un président se fasse dans un moment comme ça.
On prend le nombre de pigeons qui vivent à Paris, c'est-à-dire 80 000, à diviser par la superficie de la capitale. On multiplie ça par le nombre de fois qu'un pigeon défèque en une heure, c'est-à-dire une fois. Donc c'est un caca par pigeon. Il faut encore multiplier ça par le temps qu'est resté François Hollande à la manifestation. Voilà. Et on veut enfin multiplier ça par la superficie du président. Et donc en pourcent, ça vous fait 0,038.
Et voilà, il va réclamer. C'est formidable cette histoire.
Oh, c'est formidable. Ça me rappelle la vieille plaisanterie. Heureusement que les vaches ne volent pas.
Hein. Ouais. Mais là, on fait appel aux mathématiques et aux probabilités. Voilà.
Oui, de nouveau, ce sont des petites probabilités. Hein, donc, ça tombera sur quelqu'un. Mais la probabilité, pour le scientifique, ce qui est important, c'est les grosses probabilités. Les choses où on peut dire, ça va se passer.
Ouais.
Hein, quand il y a une multitude d'événements de petites probabilités, ça va tomber sur quelqu'un. Mmh. Mais on ne va rien pouvoir dire de vraiment intéressant. Mais la grosse probabilité, alors là oui, on dira des choses.
Claire nous écoute, elle nous écrit, elle a 13 ans, j'aimerais savoir, dit-elle, si en prenant compte du plus de critères possibles, on peut, grâce aux probabilités, prédire l'avenir de manière précise.
De manière précise, non, on ne prédit pas l'avenir. Ce qu'on peut dire avec de manière précise, c'est que si un phénomène est répétitif et si on le répète un certain nombre de fois, alors la proportion va être quelque chose. Hein. On ne peut jamais dire que quand on lance un dé, peut-être. Bon, écoutez, on dit avec certitude que si on lance un dé un grand nombre de fois et si le dé est juste, la proportion de 1 va être voisine de 1 sixième. Ça, on peut le dire. Oui. Maintenant, là où elle a raison, votre auditrice, c'est que si quelqu'un pouvait lancer le dé de manière extrêmement précise, si par exemple vous jouez au dé avec le diable, hein, le diable, il lance son dé. Mais le diable, il a les mains très habiles, hein, beaucoup plus que nous. Et il peut lancer le dé...
Toujours de la même manière.
Toujours de la même manière. Oui. Et à ce moment-là, il sortira le dé toujours de la même façon. Et le diable, lui, il peut prévoir. Mmh. Mais nous, surtout moi, avec les doigts que j'ai, quand on lance un dé, on ne peut pas le lancer deux fois de suite exactement de la même manière.
Ouais.
Et donc, on ne peut pas prédire le résultat. C'est ça, ce côté, ce lien qu'il y a entre le hasard d'une part et le déterminisme de l'autre.
Quand Einstein dit le hasard, c'est Dieu qui joue au dé, comment il faut comprendre cette formule,
Ivan? Moi, je me souvenais d'une autre formule. C'est-à-dire, Einstein disait Dieu ne joue pas au dé. Et ça, c'était parce que, c'est dans une querelle qui continue toujours d'ailleurs, c'est que souvent le hasard est un hasard par défaut. On dit que c'est le hasard parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, mais qu'il y a une explication cachée. Hein, le dé, par exemple, on dit que c'est du hasard, mais on sait très bien ce qui se passe. Maintenant, quand vous descendez à l'échelle quantique, vous avez du hasard pur sans explication derrière.
Oui.
Et on a des probabilités, mais il n'y a personne qui joue au dé derrière. Alors maintenant, Einstein disait, ce qu'on voit là n'est pas possible parce que Dieu ne joue pas au dé. Il n'y a personne qui joue au dé, donc on devrait pouvoir dire des choses précises.
Ouais, Éric Thierry, vous en parlez dans votre ouvrage. Hein, c'est ce changement d'échelle qui fait que justement, au niveau quantique, on peut parler là d'expliquer en tout cas le hasard.
De véritable hasard, oui. Ouais. À notre échelle physique, on a l'impression qu'on maîtrise le hasard parce que notre vision du monde est imparfaite. C'est exactement l'histoire du geste. Mm-hmm. Si on arrivait à voir avec une extrême précision le geste du diable, on verrait bien qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Et c'est à l'échelle quantique que ces choses sont immaîtrisables.
Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre notre discussion avec les messages des auditeurs. La tête au carré à radiofrance.com.
Jardin d'un instant à l'autre.
vent du sud va tourner pour tout me reprendre et tout me ramener. Ce n'est rien, rien.
Et c'est le retour de Dany avec un nouveau titre, Étoile et revers.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Avec mes invités Ivar Ekelund et Éric Thierry pour ces deux ouvrages, celui des éditions Le Pommier, Le Petit Livre de la Chance, Éric Thierry, et puis Ivar Ekelund avec Le Hasard, avec le dessinateur Étienne Le Croate. Il y a Ludovic qui demande ceci, on connaît les distributions de Gauss, la fameuse gaussienne de Poisson, va falloir nous expliquer tout ça Ivar Ekelund, hein, et les lois des probabilités qui en dérivent, mais est-ce qu'il y a de nouvelles lois, de nouvelles distributions à découvrir? J'ai pas bien compris la question personnellement.
Hein. Oui, bien un des débuts du hasard, hein, de la théorie mathématique du hasard, c'est ce qu'on appelle la loi de Gauss. Alors, ce qui se passait, c'était que Gauss est un mathématicien allemand qui vivait au 19e siècle. À l'époque, on s'occupait de mesurer la Terre. Mm-hmm. Donc, pour mesurer la Terre, on faisait ce qu'on appelait des triangulations. Vous mesurez très précisément une barre de 2 km et ensuite, vous faites de la trigonométrie. C'est-à-dire, vous visez un point avec des théodolites, vous mesurez des angles, ça vous fait un triangle, et puis vous repartez. Vous avez donc deux nouveaux côtés, rien qu'en mesurant un angle, puis ensuite, avec ces côtés-là, vous repartez, vous mesurez, et avec des triangles de quelques kilomètres de côté, on recouvrait la France entière, ouais. À partir d'une seule mesure sur le terrain. Tout le reste, c'était des mesures d'angle. Alors, c'est comme ça qu'on a fait les cartes, que Napoléon est allé en Russie, etc. Tout le monde s'intéressait beaucoup aux cartes, on regardait la forme de la Terre. Mais il y avait une question intéressante, c'était les erreurs. Hein, quand vous faites des erreurs, à chaque fois, on fait une erreur, petite erreur, hein, parce que une erreur de mesure, etc. Est-ce que les erreurs s'ajoutent? Et Gauss a découvert que les erreurs ne s'ajoutaient pas vraiment. Elles peuvent se compenser. Et la manière dont elles se compensent, c'est ce qu'on a donné à la loi de Gauss. La règle étant que, disons, quand vous faites 100 fois plus de mesures, vous ne multipliez pas les erreurs par 100, vous les multipliez par 10. Alors ça a donné lieu, par exemple, à la fameuse courbe en cloche, etc. Et c'est qui est vraiment, ça a vraiment été le début du calcul des probabilités. Alors maintenant, les lois de probabilité, il y en a beaucoup dans la nature. Il y a, par exemple, en économie, on trouve la loi de Pareto, c'est-à-dire que les revenus, les hauts revenus sont extrêmement concentrés, etc. Alors, est-ce qu'on découvre de nouvelles lois de probabilité? Oui, on en découvre tous les jours, parce que les probabilités s'appliquent à de plus en plus de domaines, mais elles n'ont pas du tout l'intérêt de la loi de Gauss.
On va beaucoup parler de jeux, évidemment, au cours de cette émission. Extrait, justement, d'un reportage sur Antenne 2, à l'époque, en 1978, sur précisément le jeu et le hasard.
Jouer, peut-être que ça remonte à un très, très vieux défi. Tout à l'heure, je disais qu'au fond, le jet était à l'origine des choses. Peut-être que ça consiste à arracher aux prêtres le droit de faire parler les dieux. Et qu'il y a une sorte d'iconoclastie dans le jeu, au départ, puis dans le droit de faire dire le hasard, de faire parler le hasard. Et peut-être que c'est ça le jeu. Et ce pourquoi d'ailleurs il a été longtemps condamné à la fois par l'Église et par l'État, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Le jeu, c'est s'ériger en maître face au hasard.
Et c'était le sociologue Jean-Louis Calvet donc, qui s'exprimait en 1978. Éric Thierry, justement, les neuroscientifiques s'intéressent beaucoup au cerveau des joueurs aussi, hein, autour de la chance. Il y a des études qui ont été menées sur la question. On peut suivre quasiment en temps réel comment ça fonctionne dans le cerveau.
Alors, on prend un joueur, on le met dans une machine qui s'appelle une machine d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle.
Ouais, ouais.
Et on regarde les réseaux neuronaux qui sont activés quand on propose au joueur un choix ou une évaluation de gain. Et on essaye de créer des cartes standards d'un fonctionnement normal d'un joueur. Et ensuite, on prend un joueur pathologique,
ouais.
On le met dans la même machine et on regarde quels sont les réseaux neuronaux qui s'activent. Et on arrive à voir des différences entre un cerveau et un autre. Et ça, à terme, c'est pas encore le cas maintenant, mais à terme, ça pourrait aider les médecins qui aident les joueurs pathologiques.
Ouais, les addictologues, donc,
les
addictologues, en particulier.
Voilà. À mieux aiguiller leurs patients et à mieux comprendre où leur addictologie prend forme.
Ouais. Est-ce qu'il y a justement un optimisme exacerbé, a priori, chez ces joueurs pathologiques ou pas? Ceux qui continuent toujours encore, en prenant des risques considérables, d'ailleurs, parfois.
Cet optimisme, on l'a tous, puisque notre cerveau est câblé d'une certaine façon pour avoir des petites lunettes roses.
Mmh.
Au niveau du front, on a une petite zone qui sert à coder la façon dont on réactualise nos évaluations. Mmh. Vous me dites que j'ai, par exemple, 40% de chance d'avoir un cancer. Et moi, avant, j'avais évalué cette chance à 10%. Je prends cette information. Si mon cerveau fonctionne correctement, je vais réévaluer cette information en étant très optimiste.
Mmh.
On est tous câblés pour avoir ces petites lunettes roses, en quelque sorte.
Ouais. Eva Reckland, sur oui l'optimisme, justement, du joueur.
Ah, l'optimisme du joueur. Bon, c'est quelque chose qui est bien connu en économie, par exemple. Hein, c'est-à-dire que les gens ont tendance à surélever leurs chances de gain. C'est pour ça, un mathématicien est toujours étonné qu'un billet de loterie qui a une chance sur 10 millions de gagner soit vendu beaucoup plus cher que ce que le calcul mathématique donnerait.
Je crois que c'est même 100 millions, hein, la probabilité de gagner un billet à la loterie.
Oui, mais normalement, un billet qui vous donne une chance sur 1 million de gagner 1 million, il devrait valoir 1 euro. Or, on le vend beaucoup plus. Mais il y a quand même quelque chose, je voudrais dire, sur le hasard et qui n'avait pas été dit, c'est que le hasard n'est pas si méchant que ça. Il y a quelque chose que les il y a un côté équité dans le hasard. Vous voyez ? Je veux dire par là, vous avez quelque chose que il faut pas partager quelque chose entre nous deux, il ne peut pas être partagé. Il y a quelque chose qui ne peut pas être partagé, une statue ancienne, par exemple, je ne sais quoi, ou quelque chose d'autre. On ne peut pas le partager, ce n'est pas partageable. On le tire à pile ou face.
Oui.
Alors ça, il y a une forme d'équité très profonde. Et dans les cas où il y a des missions difficiles, il y a 10 personnes, ouais. Le commandant va envoyer quelqu'un et le type a une bonne chance de se faire tuer. Il y a 10 personnes. Qui va-t-il choisir? Ben, on tire à la courte paille, ouais. Etc. Il y a, et je crois que c'est aussi, il n'y a pas seulement l'histoire d'imprévisibilité dans le hasard, il y a aussi un sentiment très profond d'équité. Hein, c'est-à-dire, on tire à pile ou face ou quelque chose, on équilibre les chances, et ça, je pense qu'on n'en tient pas assez compte.
Ouais.
Et
le recours au tirage au sort, vous citez des exemples, n'est pas récent du tout, d'ailleurs.
Ah non, non. Au début, c'était ça. On tirait au sort, non pas parce qu'on voulait risquer des choses, mais pour être équitable. On dit toujours, par exemple, les Athéniens tirait certaines magistratures au sort. Alors, d'une part, c'était parce qu'on pensait sans doute que les dieux pouvaient aider, mais aussi, ça assurait une rotation. Chacun son tour. Il n'y avait pas une caste de politiciens qui s'élisaient mutuellement. Chacun y passait à son tour. Et encore maintenant, on tire les membres du jury au sort. Et on les tire et ils font très bien leur travail.
Oui. Donc on laisse faire le hasard, là, dans ce cas-là.
On laisse faire le hasard, hein, pour une raison d'équité.
L'humain se décharge d'une responsabilité.
L'humain se décharge de responsabilité parce qu'il pense que c'est plus équitable que si quelqu'un le décidait lui-même.
Allez, un autre jeu beaucoup plus dangereux, celui-là. Écoutez cet extrait de Voyage au bout de l'enfer.
Tout se passera bien, vas-y, tout se passera bien. Vas-y, Nicky. Toi et moi, on tient le jeu maintenant.
Retire-moi.
Ok.
Ok, on y va. Okay. Je ne peux pas le faire. Non, je peux plus. Mais vas-y. T'as une chambre vide dans le barrière. Et percute la chambre vide, nom de Dieu. Fais chier, merde. Fais-le, tout se passera bien. Vas-y, tire. Vas-y, Nicky, te dégonfle pas. Vas-y.
Voilà, lorsque le hasard donne des sueurs froides avec la roulette russe, en l'occurrence, hein, dans cet extrait de Voyage au bout de l'enfer. Éric Thierry, vous dites d'ailleurs que les compagnies d'assurance ont des données très intéressantes, hein, sur les probabilités qui sont liées à la vie. Parce qu'évidemment, ça les intéresse au premier chef. Hein.
Bah oui, c'est leur affaire.
Ouais.
Et elles doivent comment dirais-je, bien...
connaître les paramètres, justement.
Oui, c'est ça.
Compte.
Zut, il me manque le terme. Borner nos vies pour savoir si nous prenons des risques ou pas. Et ça ne date pas d'hier, puisque le premier à s'être intéressé à la question, c'était Anne Mandalay,
ouais.
Qui un jour a reçu une drôle de demande. C'était un village en Pologne, qui connaissait une légende. Tous les hommes ou toutes les personnes âgées de 49 et 63 ans, allait mourir dans l'année. Alors lui, il a voulu vérifier si c'était vrai.
Ouais.
Il se fait envoyer les données de la ville, et puis il s'est aperçu qu'en réalité, il n'en était rien. Il a regardé, il a fait un tableau avec une colonne. Dans une colonne, les âges. Dans l'autre colonne, le nombre de personnes qui étaient vivantes à cet âge-là. Et il s'est aperçu, en fait, que plus on vieillissait, plus on avait de malchance de mourir. Et à l'époque, c'était absolument pas évident, puisqu'on pensait que n'importe qui avait la même chance de décéder, qu'on soit très âgé, dans la force de l'âge, ou même bébé. Et ce faisant, les assurances, parce que ça existait déjà à l'époque, se sont intéressées à ce travail d'Anne Mandalay pour calculer leur prime d'assurance.
Ouais.
Et aujourd'hui encore, plus les compagnies d'assurance collationnent d'informations sur nos modes de vie, plus elles arrivent à savoir si nous sommes dans les clous des risques qu'elles prennent pour nous assurer.
Avec les activités qu'on pratique, évidemment. Oui. Ces activités qui peuvent nous enlever ou nous donner du temps de vie supplémentaire.
Exactement.
Hein, puisque c'est ça qui est en jeu, effectivement. Yves Reclaine.
Oui, oui. Les assurances sont un très bel exemple. Hein. Elles ont des tables de mortalité qui fonctionne très bien, c'est-à-dire on peut savoir avec une grande précision combien de personnes de tel âge mourront dans cette année en France. Mais ça ne dit rien sur la personne elle-même.
Ouais.
Hein, ça ne dit rien sur la personne.
On est encore dans les probabilités.
Exactement.
Ouais.
Sur le groupe, on va pouvoir savoir très très précisément hein, que sur 100 000, il y en a...
C'est ça. Mais sur le global, ça donne des tendances.
Sur le global,
qui
ça permet donne très précisément.
De diriger ses politiques d'assurance, oui. Précisément.
Oui, oui. Mais il y a ce côté du hasard. Hein, ce qui est totalement aléatoire au point de vue individuel devient certain au niveau agrégé.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission après Escobar, Someone New sur France Inter.
So it's a goodbye. Is it time to set you free? Is it time to let it fly? Is it time to let it bleed? We used to take time to cover up the pain. Deep below it burns.
Alors, dans ce mythe Sagan, savamment entretenu par ce qu'on pourrait appeler une grande presse, et même de grands patrons de presse, pourquoi pas, parlons de Lazareff, il vous a beaucoup aidé, il y a le jeu. Et alors, le jeu, ça représente exactement quoi pour vous? C'est un pari, c'est...
C'est la chance. C'est un flirt avec la chance. Voilà.
Oui, mais la chance, ça se définit pas comme ça.
On joue pour défier la chance, pour remettre en question son équilibre financier, sa vie, ses choses, son destin, sa manière de vivre. Alors, je vais pas jouer de l'argent avec des amis à moi, ce qui serait pas agréable ni pour eux ni pour moi. J'ai pas joué non plus contre des gens inconnus, ce qui est extrêmement dangereux. Par conséquent, je joue au casino contre la chance pure.
Comment ça se passe? Pourquoi est-ce qu'on gagne? C'est le pif, c'est quoi?
Oh non, c'est la chance, c'est une question de chance. Il y a des périodes où on perd tout le temps, il faut s'arrêter, il y a des périodes où on gagne, il faut insister, voilà.
Alors c'est quoi la chance? Vous qui avez tellement joué, qui continuez à jouer, vous ne pouvez pas me donner en deux mots une définition du mot chance?
Non.
Voilà, Françoise Sagan en 1984, oui. Grande joueuse évidemment, Françoise Sagan. Quand on gagne, il faut insister. Qu'est-ce que ça vous inspire, Ivar Eklund?
Moi, je vais réagir en mathématicien. Il y a toujours cette idée d'équité dont je parlais tout à l'heure, à savoir, bon, ben, si on gagne un jour, on va perdre, et puis si on perd, un jour, on va gagner. Cette idée qui fait partie de l'équité. Alors, pour le mathématicien, c'est vrai, mais il faut attendre très, très, très longtemps.
C'est-à-dire une vie ne suffit pas.
Une vie ne suffit pas, même la vie de l'univers ne suffit pas. Tout peut se passer. On va reconstituer les œuvres de Shakespeare, etc. Mais le temps qu'il faut attendre.
Éric Thierry, vous racontez de très belles histoires de chance. Justement, il y a ce pilote d'avion autrichien qui m'a beaucoup plu, qui est en train de voyager tout seul dans son avion, et puis il voit une voiture comme ça en bas.
Il voit une voiture sur la route, et il remarque que la voiture fait une embardée et va finir son chemin dans un champ voisin. Oui. Alors vite, il alerte par radio les secours, et puis il reprend son chemin, il reprend son plan de vol. Les secours arrivent, sauvent les occupants de la voiture. Lui, il atterrit sur l'aérodrome de son club, et il apprend en fait qu'il a sauvé la vie de sa femme et de ses enfants.
Voilà. Incroyable. Il y en a plein comme ça, des histoires, sur un jeune homme aussi qui avait été sauvé enfant de la noyade.
Exactement.
Et puis 9 ans plus tard, c'est lui qui va sauver la personne qui l'avait sauvé.
C'est lui qui sauve le mari de la femme qu'il avait sauvée. Il y a encore, c'est un peu plus triste, l'histoire de cet Irlandais du Nord qui va voir son oncle à l'hôpital, qui est très malade. Et il est tellement choqué qu'il décide de s'inscrire au registre des donneurs d'organes, et notamment des donneurs du cœur. Il rentre chez lui et malheureusement, il est assassiné. Il est transporté quasi mort à l'hôpital. Son cœur est transplanté et il est transplanté chez son oncle.
Voilà.
C'est un véritable don du cœur entre familles.
Alors, je raconte souvent cette histoire aussi à l'antenne, Ivar Eklund. C'est Madame Comet qui avait reçu une météorite sur son toit il y a quelques années. Il y a pas longtemps. Mais oui, en région parisienne. Donc, la probabilité de recevoir une météorite sur son toit quand on s'appelle Madame Comet, c'est quand même très faible. Vous êtes d'accord avec moi?
Je suis entièrement d'accord.
Franck nous dit, est-ce que la concordance de toutes les constantes de la physique qui font que notre univers existe peut être due au hasard, justement?
Je ne pense pas, au sens où si les constantes ne sont pas ce qu'elles sont, eh bien la vie ne serait probablement pas possible et nous ne serions pas là pour le voir. Il y a peut-être d'autres univers où il y a d'autres constantes, mais il n'y aura peut-être pas de vie ni d'autres êtres humains.
Ce qui est très joli aussi, c'est que si on rembobinait le fil de notre univers et qu'on arrive au Big Bang et qu'on refaisait partir le film dans l'autre sens, l'univers serait peut-être complètement différent, avec peut-être des lois physiques, elles aussi, complètement différentes. Pas besoin forcément d'aller imaginer un univers parallèle.
Et il faut une toute petite chose pour changer justement le cours des événements. C'est pour ça que le papillon est un animal intéressant dans cette histoire du hasard, Ivar Eklund.
Absolument. Vous rentrez dans la théorie du chaos, dans les années 60. Qu'un météorologiste qui s'appelait Lorentz avait lancé cette idée qu'un battement d'aile de papillon peut provoquer un cyclone quelques mois après dans les mers du Sud.
Ouais.
Alors, ce qu'il voulait dire, c'était que vous avez je reviens à la question de l'auditeur de tout à l'heure, si on avait toutes les données, si on était comme le diable, si on avait toutes les données au départ, si on avait toute l'information, si on est complète, alors effectivement, on pourrait prédire aussi loin qu'on veut.
Sauf qu'il y a plein de paramètres,
qu'il y a la mécanique quantique, etc. Mais dans le cas de la météorologie, si vous voulez prévoir à 1 mois, 2 mois, 3 mois, il vous faudrait des données sur pratiquement chaque mètre cube de l'atmosphère. Oui. Et ça, on ne peut pas les avoir.
Même avec les ordinateurs aujourd'hui, les milliards de calculs à la seconde.
Ah, mais ce n'est pas une question d'ordinateur, c'est une question d'information au départ. Il faudrait savoir, je vous donne tous les ordinateurs que vous voulez, mais on ne sait pas, dans chaque mètre cube de cette pièce, quelle est la température et la pression. Si nous sommes dans un studio, je ne sais pas combien il fait le studio, mettons qu'il fasse 30 mètres cubes, il nous faudrait 30 données dans ce studio, etc. etc. Et puis alors, on n'a pas cette information. Vous vous rendez compte, il faudrait un instrument dans chacun, oui, et ensuite agréger tout ça. C'est un manque, on n'a pas l'information suffisante. Alors après, vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez, mais ça diverge très vite. C'est un peu comme le dé, si vous voulez. Hein. Vous avez deux configurations au départ qui vous paraissent semblables. Elles sont semblables, en effet, mais elles ne sont pas exactement pareilles. Il y a des petites différences dans certains endroits. Un papillon bat de l'aile. Et puis, ça donnera des choses très différentes.
Dans cette bande dessinée, justement, Ivar Eklund, il y a plusieurs personnages célèbres qu'on croise. Marie Curie, par exemple, mais également François Jacob, pour parler de biologie et de sélection naturelle.
Oui.
Parce que là aussi, il y a quand même... Alors là, pour le coup, le hasard qui rentre en ligne de compte. Hein.
Alors ça a été un des grands succès, des grandes interventions de la probabilité en biologie. C'est un sujet très populaire à l'heure actuelle. Mm-hmm. Et ça, c'était un mathématicien qui s'appelait, j'ai oublié son nom, qu'il avait fait. Si vous voulez, il y a une question qui est importante en théorie de l'évolution. Une mutation apparaît. Si c'est une mutation, il y a peu de gens qui la portent. Il y a peut-être 3-4 personnes. Alors, sur une population, ça peut être un milieu. Pourquoi est-ce qu'elle ne va pas disparaître, tout simplement? Une petite mutation, un allèle de gène sur 40 millions d'autres, pourquoi ça ne disparaît pas? Alors, vous faites le calcul probabiliste et vous vous apercevez que finalement, par le simple jeu du hasard, elle ne va pas disparaître, elle ne va pas grandir. Mais il y aura toujours 2, 3, 4, 5 types qui l'auront. Et ça lui donne sa chance. C'est-à-dire que si elle est favorable, ces gens vont survivre, plus de chances de survivre, de transmettre à leurs enfants. Si elle est nuisible, avoir plus de chances de disparaître. Le hasard stabilise à ce niveau-là, et stabilise la mutation, et lui laisse après, les individus qui la portent, la chance de s'étendre, au contraire, de disparaître.
Et ce qui est fou quand même, c'est que le hasard est au cœur du vivant.
Hein, le hasard est au cœur du vivant,
puisque c'est vraiment un des ingrédients de l'évolution et de la sélection naturelle.
Oui, c'est...
Un petit mot de Didier pour terminer, qui nous rappelle que le hasard vient de l'arabe hasard, jeu de dés, on en a beaucoup parlé au cours de cette émission. Et puis une dernière question, Ivar Eklund, c'est François, quelle est la probabilité que Dieu existe?
Ah mais...
En 30 secondes.
Écoutez, Pascal trouvait qu'elle était très faible,
ouais,
mais que ça valait quand même la peine de la tenter, parce que le gain était très important. Alors ça, c'est le pari de Pascal.
Ouais.
Donc je pense que tout le monde considère qu'elle est très faible, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir comme s'il existait. C'est différent.
Hein. Tout est ouvert. Tout avec le hasard,
et
justement.
Puis on ne peut pas tout calculer, et puis il faut garder confiance dans l'existence.
Le hasard, Ivar Eklund avec le dessinateur Étienne Le Croart, et Éric Thierry, le petit livre de la chance, c'est aux éditions Le Pommier. Le premier livre, par contre, est dans la petite bibliothèque des savoirs au Lombard. Merci beaucoup à tous les deux pour votre venue
sur
la tête au carré. Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Mathieu Vidard.
Allez, Affaires Sensibles, c'est dans quelques minutes après les infos.
Mmh. On aurait pu parler d'Eden Hazard aussi, le grand joueur de football belge. Je vous dis ça parce qu'on va parler de football. L'attribution de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Drôle d'idée et grosse affaire autour de cela. Hein. On en parlera aussi avec notre invité Jean-Philippe Leclerc, rédacteur en chef à l'équipe, auteur du livre consacré à Michel Platini, à la FIFA, Platoche, gloire et déboire d'un héros français.
Merci à Fabrice Desmas qui était à la technique, il est 15h.